On va reparler d'énergie dans cette édition, d'énergie solaire et hydraulique. On revient aussi sur le dossier de la concession de l'aéroport avant de vous parler des mésaventures d'une touriste un peu particulière au Fénois. Le journal de la rédaction de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On vous parlait hier de ces inaugurations de fermes solaires à Taravao. Eh bien, elles ont engendré du débat dans le sud de Tahiti.
Oui, ce n'est pas que les habitants de la presqu'île soient en guerre contre le photovoltaïque ou l'énergie renouvelable, c'est même l'inverse. Certains se demandent pourquoi le sud ne profite pas davantage de l'énergie propre et peu coûteuse des fermes et des barrages. Il se trouve que l'essentiel de ces moyens de production sont situés dans la zone. Il se trouve aussi que les tarifs de l'électricité dans la zone sud reste aujourd'hui plus élevé qu'au nord. En cause, la réglementation de l'achat d'énergie par le SECO Sud, le syndicat qui gère le réseau depuis Hitia jusqu'à Tevaiuta. La facturation se base sur un mix énergétique fixe, 2/3 de thermique, 1/3 de renouvelable, un rapport que Anthony Jamais voudrait faire évoluer.
Ce qu'on voudrait, c'est qu'on inverse cela, que l'énergie renouvelable constitue au travers du mix la composition qu'il faut pour influer sur le tarif. Pourquoi ? 28 francs le mix énergétique, et on prend l'exemple de ces deux fermes-là, vous avez une production à 20,49, ça fait presque un écart de 8 francs. Et pour la production hydroélectrique, elle est à 15 francs en moyenne. Imaginez, si nous accédons directement à ce tarif bénéficiaire, c'est sûr que les entreprises seront intéressées à venir chez nous.
Anthony Jamais Tavana de Tayarapu Est est président du SECO Sud, qui a donc interpellé le pays lors des inaugurations d'hier. Vous l'avez entendu, l'objectif c'est de revoir les règles de facturation de l'électricité à la zone sud pour faire baisser les tarifs et ainsi gagner en attractivité, le tout dans l'optique de développer le deuxième pôle d'activité de l'île.
Ça permettrait de constituer ce qu'on appelle un produit d'appel pour faire venir des investisseurs et avec eux des entreprises dans le secteur, avec à la clé création d'emplois et le maintien de notre population migratoire vers la ville pour travailler et rester chez eux.
Voilà, alors forcément, le développement du pôle économique de Taravao, c'est une idée qui parle au gouvernement Brotherson, qui en a fait une de ses priorités. Hier, lors des inaugurations, ce n'était pas le président qui faisait face à Anthony Jamais, mais le ministre des Finances, Warren Dexter. Et lui voit surtout les conséquences qu'aurait un tel projet. Si les factures baissent au sud, elles augmenteront au nord, d'où sa réponse plutôt mitigée.
Il faut qu'on regarde, mais j'ai envie de dire que les grands principes sur la politique énergétique, c'est qu'il faut les zoner réseau et solidarité. Donc a priori, je dirais que c'est compliqué d'aller dans son sens. Parce que sinon, si tout le monde faisait la même chose, on privatiserait en quelque sorte la production d'électricité dans chaque territoire.
Warren Dexter qui reconnaît tout de même que le prix de l'électricité au sud est un sujet à étudier. Le SECO Sud devrait déjà avoir un petit peu de marge de manœuvre supplémentaire pour faire baisser les prix, puisque les deux fermes solaires de DT inaugurées hier à Taravao n'ont pas été reliées au réseau de transport de Tahiti, mais directement au réseau de distribution locale. Un peu d'énergie moins chère donc dans les tuyaux.
Et en parlant d'énergie verte, EDT a battu un record la semaine dernière.
Triple record même pour Maramanui, dont les barrages hydroélectriques ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau de production historique hebdomadaire. Avec les pluies, ils ont aussi vécu la meilleure journée de leur histoire le jeudi 12 décembre. Et l'autre performance, c'est que 81% de l'énergie consommée entre lundi et dimanche à Tahiti était d'origine renouvelable. Un chiffre à mettre au crédit, bien sûr, des fortes précipitations de la semaine passée qui ont rempli les réserves des barrages hydroélectriques de la filiale 2DT Engie et maintenu leurs turbines à fond. Mais ces performances, elles ne s'expliquent pas uniquement par les pluies, Charlie René.
Non, il y a d'abord les améliorations constante de Maramanui sur ses 16 centrales hydroélectriques dans les vallées de Tahiti. Il y a surtout la mise en opération fin 2022 de Putuwira, générateur virtuel de DT qui permet de soulager un groupe gasoil de la centrale de Punaru et faire de la place pour le renouvelable sur le réseau. Il y a aussi le développement du photovoltaïque qui a aidé, malgré la météo, jusqu'à un certain point en tout cas. Samedi, quand les nuages se sont dissipés au-dessus de Tahiti, ces grandes centrales avaient de l'énergie à revendre, mais vu la consommation basse du week-end et le manque de moyens de stockage sur le réseau, cette électricité a dû être délestée, c'est-à-dire gaspiller, Valdemar.
Des réflexions donc à mener sur la meilleure façon de gérer cette énergie renouvelable, des réflexions aussi sur la consommation tahitienne, puisque si ces records sont régulièrement battus, c'est que cette consommation augmente d'année en année. Écoutez Didier Pouzou, le directeur général de DTNJ.
Je pense que le vrai cheval de bataille, et pourquoi pas en faire une cause polynésienne l'année prochaine, c'est comment arriver à la sobriété énergétique sans perte de confort. L'évolution de la consommation, on l'identifie, c'est des mauvaises habitudes, des équipements anormalement énergivore, et il y a moyen de réduire chacun sa consommation d'une dizaine de pourcents, ce qui ferait baisser la facture, donc ramener du pouvoir d'achat à tous les Polynésiens, mais en plus ça permettrait d'augmenter du coup notre mix énergétique puisqu'on produirait la même quantité d'énergie renouvelable pour moins de consommation.
Didier Pouzou au micro de Charlie René.
On revient maintenant sur ce coup politique dans le dossier de la concession de l'aéroport.
Oui, nous vous l'annoncions en ce début de semaine, la Direction Générale de l'Aviation Civile a repoussé la date limite de dépôt des candidatures à la concession au 4 février. Alors deux dossiers étaient déjà sur la table, celui de Vinci et celui de Aegis avec la CCISM. Mais c'est à la demande d'un troisième candidat que ce report est intervenu, le GIP Motu Tairi, un groupement d'intérêt public créé à l'initiative du maire de Faa, Oscar Temaru. Il a fédéré autour de lui plusieurs communes de Tahiti et Moorea, à savoir Faa, Paea, Te Vaiuta et Itia, qui en sont les membres fondateurs. Papeete, Punaouia et Moorea s'apprêtent à les rejoindre, d'autres pourraient suivre. Le GIP a pour président VTA Sandford, membre du conseil municipal de Faa et commandant de bord chez ATN. Il vante une gouvernance équilibrée du groupement, 51% des droits de vote à Faa, 39% aux autres communes et 10% aux partenaires privés et stratégiques. Écoutez-le.
L'objectif quand même, c'est d'avoir un ancrage fort local, donc par les mairies, les entreprises locales autour du financement. Pour l'instant, on s'adresse à des conseils locaux, on finance. Ce qui est prévu, c'est des partenaires internationaux stratégiques qui apporteraient une expertise. Pour l'instant, je n'ai pas plus de données à vous proposer, sachant que cette structure, pour l'instant, elle est là pour répondre rapidement aux délais d'appel d'offres.
Et de sources proches du dossier, Moetei Brotherson voit cette initiative d'un bon œil. Les Tavana, de quelque bord qu'ils soient, ont également donné leur assentiment à cette reprise de contrôle de cette infrastructure vitale par des acteurs locaux. D'autant qu'un GIP ne peut percevoir de dividendes, les bénéfices resteraient ainsi dans la société d'exploitation pour être réinvestis. Mais d'autres questions financières ont leur importance. Certes, ADT dégage un résultat d'environ 600 millions annuels, mais l'appel d'offres est clair, il porte sur la modernisation et l'agrandissement de Tahiti Faa. C'est donc un investissement très conséquent qui est demandé aux futurs concessionnaires et il faudra aussi payer un ticket d'entrée de 4,1 milliards de francs à Aegis pour liquider l'ancienne concession. Pour tout ça, le GIP compte donc sur le pays, son futur partenaire dans la société d'exploitation pour trouver les fonds nécessaires.
Mais c'est vrai que le soutien financier du pays est nécessaire en tant que garant et accompagnateur de ce projet. Il s'agit de gouvernance locale et je pense que le pays quand même est à 49% capable d'avoir un soutien très fort dans cette organisation.
Mais pour rappel, l'attribution de cette concession est contestée depuis qu'en 2011, le maire de Faa avait lancé les hostilités. Trois annulations plus tard, si le dossier du GIP Motu Tairi n'était pas retenu et que Aegis ou Vinci obtenaient la concession, les Tavana auraient la capacité de déposer un nouveau recours contre l'attribution.
Et on vous parle d'une autre gestion, celle du port de pêche.
Puisque le conseil d'administration du port autonome a attribué hier la délégation de services publics sur la gestion du port à la S3P, cette société d'économie mixte qui rassemble les acteurs publics et privés de la filière est déjà aux commandes depuis 2009 des 7 hectares de pontons, des quais, des ateliers et des chambres froides. La gestion de la S3P a déjà été critiquée par le passé par la CTC, mais il s'agit grâce à cette nouvelle DSP et aux revalorisations de redevances qui l'accompagnent de rationaliser l'activité et surtout d'accompagner les ambitions de la pêche polynésienne. Un programme de réaménagement et d'extension du porte-pêche est en cours et la S3P attend aussi des modernisations d'équipements, notamment du côté des tours à glace.
C'est déjà Noël pour les salariés du secteur bancaire.
Oui, comme l'an passé, les agents de la Socredo, de la Banque de Polynésie, mais aussi ceux de la Banque de Tahiti ont reçu fin novembre une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 135 000 francs. Elle a été actée dans un avenant à la convention collective signée le 22 novembre 2024 entre l'Association française des banques et plusieurs syndicats locaux. Pour rappel, cette prime proposée par le MEDEF dès 2022 a été instaurée début 2023 et doit permettre aux entreprises de verser à leurs salariés des primes de fin d'année non soumises à cotisations sociales. Une matière de lutter contre la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation.
Et puis la polémique qui entoure le voyage de la maire de Paris Anne Hidalgo à Tahiti est de retour sur la table.
Oui, souvenez-vous, en novembre 2023, Anne Hidalgo avait suscité la polémique sur le financement d'un séjour de 3 semaines au Fénois qui mêlait raisons professionnelles et raisons personnelles. Une association anticorruption avait porté plainte pour détournement de fonds publics, ce qui avait conduit à une perquisition avant que la mairie ne se décide enfin à révéler les détails des frais de déplacement remboursés par la municipalité. 4,9 millions de francs de transport, 2,2 millions de francs pour l'hébergement et la restauration. Mais seulement, le canard enchaîné révèle cette semaine qu'une note n'a pas été mentionnée dans les justifications de la mairie. Une facturation téléphonique hors forfait chiffrée à 30 000 euros, soit 3,6 millions de francs. Selon l'hebdomadaire, ni la maire ni aucun de ses collaborateurs ne s'était rendu compte que le forfait métropolitain de l'élu ne couvrait pas la Polynésie française. Cette somme aurait été entièrement remboursée par la mairie de Paris, par le contribuable donc.
Et puis au Vanuatu, un Français est décédé.
Oui, l'archipel mélanésien Malien a été frappé par un séisme de magnitude 7,3 lundi, on en a déjà parlé. L'aide internationale s'organise, notamment celle de la France depuis la Nouvelle-Calédonie, et ce alors que de nombreux bâtiments sont détruits, que le réseau d'eau est coupé sur la capitale Port Vila et que les communications restent précaires. Le dernier bilan officiel du pays fait état de 9 morts et d'après l'ambassade de France au Vanuatu, l'un d'eux est français. Il est décédé sous les décombres d'un bâtiment effondré en centre-ville, indique ce matin l'ambassadeur Jean-Baptiste Jean-Gène Villemaire. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 16h pour un prochain point avec l'actualité locale.
Merci beaucoup Valdemar pour ce journal. Il est midi 10 et c'est l'heure de la météo sur Radio.